Le jaune, safra, couleur du safran, c'est en terre d'islam une couleur qui est plutôt méprisée, à l'opposé du rouge, quoique ça peut varier considérablement, dans le monde islamique, qu'il soit chiite ou sunnite. Mais la culture islamique percevait le jaune de plusieurs façons. Le jaune doré, le jaune doré c'est toujours la couleur du soleil, donc c'est aussi la couleur du conseil sage et avisé. Le jaune pâle, par contre, c'est la couleur de la trahison et de la tromperie. Donc on va retrouver à travers ce jaune pâle la couleur du soufre qui appartient au monde du diable. Et c'est ça qu'on pourrait développer dans l'islam justement, ce jaune qui est le jaune safran, la symbolique arabe du safran plutôt que le soufre. Et d'abord avec une remarque, le mot même, safran, dans plusieurs langues européennes procède de l'arabe que vous avez entre parenthèses noté avec un Z, safran, désignant en effet la plante, mais surtout la poudre qu'on en tire, ainsi que la couleur jaune-orangée qu'elle présente. Et c'est l'un des termes clés de la symbolique des couleurs dans le monde islamique, de nature ambigu. C'est cette ambiguïté qui justement m'intéressait à travers ce jaune safran, ce jaune tout court finalement, le jaune musulman. Et on dira quelque chose d'assez comparable à propos du vert, puisque vous savez que le cours d'aujourd'hui est consacré au vert de l'islam. Alors d'un côté, le safran employé dans la teinture des vêtements correspond à l'innocence et à la pureté. De l'autre, le jaune safran aurait été déconseillé par le prophète. Et alors, en effet, on incitait les musulmans à éviter les vêtements couleur safran, surtout si ces vêtements étaient en soie. Alors, par exemple, qui dit ça? C'est Al-Bukhari de Boukhara, ce grand penseur, théologien musulman, qui a vécu à Boukhara au 9e siècle de notre ère. Il déconseillait le jaune, il déconseillait les vêtements en soie parce que, dit-il, la soie est une défécation d'un ver. Le ver à soie est de ce fait ne peut être dignement porté par un croyant musulman, nous dit Al-Bukhari. Hein. Je vous rappelle que Al-Bukhari, c'est un auteur extrêmement important dans tout le monde musulman, qu'il soit chiite ou sunnite, parce qu'il est à l'origine de beaucoup de hadiths, les hadiths du prophète, les paroles du prophète, hein, tout ce qui va compléter ce que ne dit pas le Coran. Donc autrement dit les hadiths, hein, à l'origine des hadiths, de beaucoup des hadiths, il y a Al-Bukhari. Alors nous parlons d'ambiguïté. Il y a effectivement quelque chose de très ambigu ici. Hein. Comme on le disait, hein, un vêtement qui correspondrait à l'innocence et à la pureté, mais c'est déconseillé par le prophète, et Al-Bukhari va encore plus loin. Alors en effet, dans la sourate du Coran, appelée la vache, c'est toute une sourate du Coran qui est intitulée comme ça, la vache, et qui traite de l'animal, la vache, immolé à la demande de Moïse, Dieu assigne à la robe de cette vache un qualificatif qui est safra. Safra, donc safran, le jaune safran. Oui, mais non, en fait, ça ne va pas marcher comme ça. En tout cas, pas dans les traductions qu'on donnera à ce mot safra. Reprenons un petit peu ça. La sourate, donc, s'appelle la vache. Vous trouvez aussi parfois la génisse. Hein. La vache ou la génisse. Hein. Donc, sourate 2, verset 67, Moïse dit à son peuple d'immoler une vache. On lui demande de quelle couleur doit être cette vache. Hein, ça renvoie à toutes ces prescriptions, notamment du Pentateuque. et du Deutéronome en particulier. Bon, enfin, passons, mais on est bien dans le Coran, la sourate de la vache. Et Moïse va répondre, mais répondra après avoir consulté le Seigneur. Et Dieu dit, et là je cite la sourate du Coran, Dieu dit, oui, ce sera une vache rousse d'une couleur franche et agréable à voir. Et c'est ainsi qu'on traduit en français, de manière très hésitante, le mot safra. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez curieux. On aurait dû employer pour traduire la couleur de la robe de cette vache le jaune safran, mais on ne l'a pas fait. Alors on a préféré effectivement, et d'une manière hésitante, je le disais, rousse. Alors rousse, c'est Massignon, par exemple. Massignon, c'est un traducteur de la Bible en français. Il traduit les choses comme ça. Oui, ce sera une vache rousse. Rousse, ça c'est Massignon. Fauve, dira plutôt Jacques Berck, qui est aussi l'auteur d'une traduction du Coran. Roux foncé, ça c'est un autre auteur, un autre traducteur, René Kawam. Et safran vif, oui, on peut trouver effectivement dans la traduction qu'on donne Chouraki, le safran vif. Et remarquez que parallèlement, dans la tradition biblique, si on fait le parallèle entre la sourate du Coran, la vache, et le récit que je viens de rappeler, la tradition biblique. Alors c'est tiré bien sûr du Deutéronome, dont je disais à l'instant que c'est rempli de prescriptions qui sont extrêmement lourdes. La même vache que celle que l'on rencontre dans la sourate du Coran, est qualifiée en français de rousse. Roux correspond en arabe à chakra ou chagra, mais certainement pas à safra. Donc le texte arabe dit bien safra, le jaune safran, et on le traduit quand même par roux. Mais le mot arabe, c'est chakra ou chagra, c'est pas safra. Donc il y a une ambiguïté, et l'ambiguïté s'explique parce que je disais à l'instant, si on peut porter des vêtements de couleur safran, par contre ce jaune a été déconseillé par le prophète, et Al-Bukhari en rajoute une couche, hein, en quelque sorte. Donc on le voit, une même couleur peut donc être dite propice quand elle est naturelle sur un pelage animal, d'où la vache en question, et mauvaise quand elle teint un vêtement. Et nous, en français, on ne sait sur quel pied danser, donc on a préféré traduire la robe de la vache de la sourate en question par rousse, parce qu'on ne sait pas trop en fait. Hein. Bon. La symbolique des couleurs est d'ailleurs coutumière de telles ambiguïtés, on insiste sur l'ambiguïté, décidément, et les substances qui donnent leur nom à ces couleurs n'en sont pas forcément affectées. Prenez par exemple les vertus pharmaceutiques et culinaires du safran qu'on avait évoqué la semaine dernière, elles demeurent très appréciées par les musulmans. Les musulmans condamnent ce safran quand il est porté comme vêtement. Enfin, le prophète et Al-Bukhari va plus loin puisqu'il va désigner le vêtement en soie couleur de safran, mais les vertus pharmaceutiques et culinaires sont très appréciées dans l'islam. Alors restons effectivement attachés à l'islam, quoique on va présenter dans un premier temps le vers d'une façon générale. C'est important parce que bien sûr l'islam est héritier de beaucoup de choses qui existaient avant cette religion. Alors voyons ça. Le vers, que peut-on dire du vers? Le vers tel qu'on le voit ici, à travers cette composition de Van Gogh, châtaignée en fleurs, et il a choisi ce vers comme il peut choisir un jaune vif, on l'avait vu la semaine dernière, le vers agit sur le corps en abaissant la tension artérielle et en dilatant les vaisseaux capillaires. C'est un effet reposant, utilisé pour lutter à la fois contre l'insomnie, contre la fatigue, et donc au-delà de l'énergie vitale physique, le vert va symboliser l'espoir finalement, la promesse d'atteindre un objectif précieux après la noirceur du découragement, après l'hiver vient le printemps, et le printemps est vert, bien sûr, hein. C'est un symbole d'espoir, une promesse en tout cas. Alors bon, voilà, et puis bien sûr qu'on va citer Kandinsky, comme on le fait pour chacune des couleurs. Le vert est le plus souvent assimilé au calme, au retrait. Cette couleur évoque le refuge, une certaine sécurité, et surtout dans les civilisations urbanisées, la nature. Le vert, c'est la nature dans les villes, évidemment. Et d'un point de vue pictural, mais ce que va en dire Kandinsky est quand même intéressant et échappe au seul domaine pictural. Du point de vue pictural, il est opposé aux couleurs dynamiques, au point d'éveiller chez certains peintres des idées de plénitude non sans fadeur. Enfin, lisons du spirituel dans l'art de Vassili Kandinsky, l'extrait, le passage qui s'intéresse au vert. Voici ce qu'il en dit. Hein. Le jaune et le bleu contenus dans le vert, comme des forces tenues en échec, peuvent redevenir agissants. Il y a dans le vert une possibilité de vie qui manque totalement dans le gris. La raison en est que le gris est composé de couleurs qui n'ont pas de force vraiment active, capables de se mouvoir, mais qui sont à la fois douées d'une capacité de résistance immobile et d'une immobilité incapable de résistance, nous dit Kandinsky. Le vert absolu, ajoute-t-il, est dans la société des couleurs ce qu'est la bourgeoisie dans celle des hommes, un élément immobile, sans désir, satisfait, épanoui. Ce vert est comme la vache grasse, saine, couchée et ruminante, capable seulement de regarder le monde de ses yeux vagues et indolents. Le vert est la couleur dominante de l'été, le temps de l'année où la nature, ayant triomphé du printemps et de ses tempêtes, baigne dans un reposant contentement de soi. Voilà ce que dit Kandinsky à propos du vert. Hein. Bon. Alors là-dessus, par une extension tout à fait attendue, le vert connote la jeunesse du monde, ou des hommes, le printemps, si vous voulez, la vigueur et la fraîcheur, ce qui redonne de la force, et qui redonne de la force à l'individu. En français comme en portugais, que l'on pense à un vin vert, un vin trop jeune qui ne se boit pas, si vous voulez, hein, ou que l'on évoque avec Baudelaire le vert paradis des amours enfantines. C'est la valeur vitale de la croissance végétale qui s'exprime dans le vert, en français, en portugais aussi. Hein. Mais là encore, des symboliques contradictoires, donc quelque chose de l'ordre de l'ambiguïté, se sont néanmoins emparé de cette couleur, parallèlement à celle de la santé restaurée. Remarquez que les médecins portaient autrefois du vert. Les chirurgiens gardent encore, pour certains d'eux, une tenue verte dans les blocs opératoires. Quant aux pharmaciens, ils ont conservé la couleur dans leur enseigne. Bon. Et à partir de là, effectivement, parallèlement à la santé restaurée, à cette couleur des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, on va voir que ce vert peut connoter quelque chose de totalement opposé, très différent du portrait que l'on vient d'en faire ou que Kandinsky nous en a fait à l'instant. Enfin, restons sur un vert de la nature, on va dire, hein, un vert de la nature, hein, ici par exemple, hein. Dans la théorie des couleurs, pour rebondir sur la peinture et Kandinsky, le vert est la complémentaire du rouge. Donc si vous le voyez rouge, ce tableau c'est normal, mais il devrait être vert, bien sûr, ou jaune, pour être jaune, puisque c'est la moisson. Hein. Bon, mais là on va jouer sur la complémentaire, c'est-à-dire le rouge. Et c'est pourquoi le vert est d'autant plus la couleur du repos s'il est confronté au rouge. La verdure fraîche et humide est souvent associée au rouge flamboyant. Enfin, il faut se poser la question, pourquoi ce peintre symboliste qui invente à Pont-Aven, avec Gauguin, le synthétisme, le cloisonnisme, a choisi cette couleur qui est presque écarlate pour la moisson, pour le vert de la nature, si vous voulez, hein, ou le jaune des moissons, il faut se poser la question. Alors pour les Grecs, par exemple, pour les Grecs, la féconde et verte Aphrodite était l'amante du féroce et rouge Mars. Mars et Vénus sont amants, hein, Vénus est l'épouse de Vulcain, elle est l'amante de Mars, Mars est rouge, nous l'avions vu, Aphrodite est verte, elle est féconde, elle est verte. Bon, dans la signalétique des transports, le vert signifie invariablement l'autorisation, la liberté de passage. Le rouge, c'est l'interdiction et le danger. Ce symbolisme, qui est d'ailleurs devenu planétaire au XXe siècle, notamment avec la circulation automobile, a pu confirmer la couleur verte dans son statut positif. Mais la relation entre le vert et la vie, la vie, donc le rouge, peut basculer très vite en son contraire. C'est ce qu'on va développer dans un instant. La couleur verte a pu être celle de la déraison et du mal. Pensez qu'au Moyen-Âge, les fous étaient vêtus de vert et bien sûr de jaune. Après le cours que l'on a eu la semaine dernière, quand on a visé ou le bouffon, ou le bourreau, ou le juif, ou l'hérétique, il est évident que le fou, lui, ne peut être vêtu que de vert et de jaune. Hein. Et on coiffait les bagnards d'un bonnet vert. D'ailleurs, peut-être que cette connotation négative provient du fait que le vert est la couleur de l'eau qui dort. L'eau qui dort, hein, devient effectivement verte. Et donc, c'est un avertissement visuel par le détour de la couleur. On ne boit pas, a priori, hein, excepté si on veut tomber malade, on ne boit pas une eau verdâtre. Hein. Et alors à ce propos, dans la perception de la nature, de nombreuses nuances participent à la fois du vert, du gris, du bleuâtre. Ainsi, l'eau de la mer a pu être considérée comme essentiellement verte. D'ailleurs, si le français actuel préfère la grande bleue, connaissez la grande bleue et pourquoi pas donc le film qui s'y rapporte. Hein. Le français connaît aussi la côte d'Émeraude, c'est-à-dire celle de la Manche. Hein. Et alors pour autant que le mot égyptien ancien puisse être traduit sans hésitation, et c'est ça qui pose un problème aux linguistes, par vert ou alors par a green, le mot anglais. Les contes de la civilisation pharaonique décrivent la mer que nous appelons rouge par une expression équivalent à la grande étendue verte. Je fais simple, les Égyptiens sous l'Antiquité ne parlaient pas de la mer rouge, ils parlaient de la grande étendue verte. L'expression est aussi rendue par la très verte. La très verte dans l'Égypte ancienne, c'est la mer rouge. Et pourquoi ? Parce que dans l'Égypte ancienne, le vert symbolisait la croissance et la vie elle-même. L'expression « faire des choses vertes » dans l'Égypte ancienne désignait des actions positives et génératrices de vie, par opposition aux choses rouges. Les choses rouges dans l'Égypte ancienne était considéré comme maléfique. Donc ainsi, on a un rapport extrêmement étroit entre le rouge et le vert. Hein. Et les choses d'ailleurs se retournent contre elles-mêmes en fait. Hein. Le vert qui semble positif peut être négatif ou inversement pour le rouge. Et ça dépend des contextes, ça dépend aussi des époques. Mais restons sur le vert qui est plutôt négatif, hein, ce vert qui vient de basculer, si vous voulez, vers quelque chose de plus négatif. Hein. Par exemple, quand on qualifie de vert un être humain, ou humanoïde. Le rapport entre cette teinte et la couleur rose ou rougeâtre de la peau dans la race dite blanche évoque une anomalie déplaisante. Si effectivement vous êtes de couleur verte un beau matin, c'est qu'il y a absence de sang et par suite peut-être même inhumanité, ou bien vous êtes cadavérique, ou bien vous êtes inhumain. Et alors effectivement, on trouve le vert dans des images de mort, dans des images de décomposition et de maladie. Hein. La vase est verte, le moisi, c'est vert, le poison, on se l'imagine vert, le pu, la nausée, tout ça c'est plutôt de couleur verte. Hein. Alors ici, une Salomé qui en fait, en vérité, est teintée de vert. Peut-être que l'image sur l'écran ne restitue pas ce vert de la carnation de Salomé, mais le peintre, effectivement, l'a voulu de carnation verdâtre. Hein. Mais c'est Salomé, hein. Donc on sait effectivement ce qu'elle réclamera. Le peintre l'a suggéré en arrière-plan, c'est la tête de Saint Jean-Baptiste. Et alors on va le retrouver, ce vert nauséeux, ce vert qui est inhumain, sur le visage menaçant des sorcières. Les sorcières ont le visage vert. Le corps des ennemis extraterrestres, forcément, ils sont verts. Les dinosaures, allez savoir pourquoi, sont verts. Les monstres sont d'une façon générale plutôt verts. Et en français, la sorcière verte, atténuée et améliorée en fée verte, autrement dit absinthe, est responsable de graves méfaits. Ces surnoms ne viennent pas seulement du vert pâle de cette boisson. Évidemment, ce n'est pas le vert qui fait le mal, au bout du compte. Hein. C'est ce que contient l'absinthe. Hein. Enfin, si on revient aux sorcières, aux extraterrestres, ces derniers ont, dans les représentations populaires occidentales, une forte tendance à la verdeur, même si les petits hommes verts ne sont pas toujours répulsifs. Comme ici, par exemple, hein. Ils ne le sont même pas du tout, au contraire, hein, au contraire, ils sont, semble-t-il, très, très attirants. Les petits hommes verts. Hein. Et effectivement, dans les films et les bandes dessinées horrifiques, le verdâtre signale une magie délétère, continuant la tradition qui fait en français du diable vauvert, un diable vert, alors qu'a priori, il ne devrait pas y avoir de rapport, mais enfin le diable vauvert devient un diable vert, au demeurant plus facétieux qu'horrible, et le langage intègre les valeurs maléfiques de la couleur verte en parlant par exemple de vert de peur. Ainsi, tout d'un coup, vous êtes confronté à la sorcière au visage vert, ou à l'extraterrestre, au martien, curieusement, le martien qui vient d'une planète rouge, est plutôt de couleur verte, et vous devenez vert de peur, ou vert de rage, hein, pourquoi pas. Dans le psychisme, on trouve aussi le monstre aux yeux verts de la jalousie, ça c'est dans le psychisme. Cependant, lorsque le vert, de manière naturelle, s'applique à la chlorophylle des végétaux, nous revenons au point de départ, bien sûr. Alors, mis à part peut-être l'ennui qui peut se dégager d'un paysage trop verdoyant. On parle en français d'un plat d'épinards, c'est bon, un peu rébarbatif, si vous voulez. Mais en dehors de ça, quand on parle du vert qui est celui de la chlorophylle des végétaux, dans ce cas, cette couleur est parée de vertu. La langue française, avec d'autres bien sûr, célèbre dans la couleur verte la végétation et ses effets bénéfiques. Se mettre au vert, par exemple, en attendant dans une vie future les verts pâturages bibliques. Ou alors vous adopterez la green posture. Et de là, une valeur sémantique nouvelle, culturelle, très actuelle, jusqu'à devenir le drapeau d'une idéologie politique, les Verts. les Verts, dit Grünen, hein, donc qui milite pour le respect de la nature, comme vous le savez. Bon, enfin, voilà ce que je voulais dire. À propos du vert, c'est riche, c'est dense, sur un plan sémantique. Donc on y retrouve l'ambiguïté, ou l'ambivalence, bien sûr, comme toujours. Et on applique tout ça maintenant dans les religions, et on va commencer par la première d'entre elles, c'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte, hein. Dans l'Égypte, bien sûr, on ne peut pas négliger Osiris. Hein. Osiris. Alors il faut encore insister. Le vert, couleur de l'espérance, on le disait tout à l'heure, couleur de la renaissance après une catastrophe, que ce soit un déluge, que ce soit un incendie qui est absolument dévastateur. Enfin, après une catastrophe, le vert triomphe. Quand vient le printemps, après l'hiver ou après une catastrophe, le vert, c'est la couleur qui triomphe après une catastrophe. C'est la couleur de la renaissance. Hein, bon. Et alors on en vient à ce dieu égyptien Osiris. Osiris revient à la vie plein de vigueur, tout comme les plantes germent, bourgeonnent et éclosent au printemps. Et d'ailleurs, Fraser, dont je vous conseille la lecture du livre qui est mentionné, qu'on cite souvent dans ses cours d'histoire des religions, le Rameau d'or de Georges Fraser, hein, c'est très vieux ça, c'est très vieux, mais c'est absolument remarquable comme texte. Quand il parle d'Osiris, il dit de lui le monde verdi à travers lui. Et alors effectivement, vous avez sur un papyrus, donc très vieux, hein, papyrus du Nouvel Empire, donc une image ici d'Osiris qui est extrêmement relevée par la couleur verte, et même accompagnée de papyrus qui sont de cette couleur verte. Hein. Et ce n'est pas un vert négatif, ce n'est pas le vert cadavérique. Alors si, bien sûr, on pourrait l'imaginer, mais si vous dites cadavérique, c'est ce vert de la mort qui est absolument indispensable, c'est ce vert du cadavre qui donne l'espoir d'une renaissance. Car effectivement, la vie naîtra du monde souterrain. La vie revient de la mort, si vous voulez. Hein. Donc on peut le comprendre comme ça aussi, ce vert. Quoi qu'il en soit, le monde verdit à travers Osiris. Hein. Et à droite, justement, vous avez encore un autre papyrus, qui est un livre des morts, celui de Khonsoubès, comme c'est indiqué, 21e dynastie. Enfin, peut-être pas, qu'importe, bon, c'est pas le plus important. On y voit le défunt est représenté à droite de la composition, et se tient de droite à gauche, devant le défunt, Re Horakhti, avec cette tête de faucon, le soleil au-dessus, l'Ouraéus qui fait le tour du soleil sur la tête d'Horus, donc il est Re Horakhti, on en a déjà parlé. Le deuxième est Osiris, la troisième c'est Isis, la quatrième c'est la sœur d'Isis Neftis, toutes deux qui ont participer à la résurrection d'Osiris, et force est de constater que là, Osiris a un teint vert. C'est la couleur d'Osiris, en fait, hein, mais qui n'est pas négative du tout, hein, j'insiste beaucoup. Alors, rappelons juste l'essentiel, assassiné par Seth, son frère, Osiris est dépecé par ce dernier, ses membres sont dispersés dans toute l'Égypte, et Isis, sa sœur épouse, aidée de Neftis, retrouve les fragments du corps de son bien-aimé, le fait reconstituer par les rites d'embaumement, Osiris protégé à jamais de la putréfaction, et il faut insister sur ce point pour ne pas, pour ne pas qu'il y ait de malentendus à propos de ce ver qui est le ver d'Osiris, protégé de la putréfaction, il devient ainsi la première momie. Et parce qu'elle redonne à Osiris le souffle de la vie, Isis apparaît souvent comme une divinité protectrice des morts, par exemple ici dans ce livre des morts de Khonsoumès, justement, et de fait, ben, on la voit sur les sarcophages. Je parle d'Isis, Isis et Osiris, Isis et sur les sarcophages, ou dans les livres des morts, au même titre que son époux, bien sûr, hein, comme on le voit ici. Hein. Alors ce Osiris qui est associé à ce vert végétal, ce vert de la renaissance, ce vert de l'espoir de la vie dans la mort, et après la mort, ou dans la mort, tout simplement. Hein. Donc on peut aussi l'illustrer par une statuette que vous découvrez ici, qui nous situe dans le cadre des grandes fêtes osiriennes. Ces grandes fêtes osiriennes qui se déroulaient au mois de Koïak. Koïak, je vous ai mis, fête de Koïak, quatrième mois de la saison de l'inondation. Donc nous sommes à la fin de l'inondation, c'est-à-dire au moment du retrait de l'inondation, au moment précis où les semailles peuvent commencer, parce que justement l'inondation se retire. Quatrième mois de la saison de l'inondation, octobre-novembre, pour nous à peu près, hein, moment où les eaux du Nil se retirent après la crue, et où la végétation recommence à pousser. Enfin, voilà, à Abydos en particulier, mais pas seulement, à Thèbes aussi, mais surtout à Abydos, puisque Abydos, c'est la cité d'Osiris. Les grandes fêtes osiriennes se déroulaient au mois de Koïak. Et à cette occasion, on confectionnait une petite figure de momie, celle que vous avez à droite, par exemple, très très bon exemple à droite, qui était déposé dans un récipient de bois faisant office de cercueil. Et alors, il semble bien que la tête de ce petit sarcophage, de cette pseudo-momie d'Osiris, c'est tout petit, 55 cm, hein, c'est pas du tout la taille donc humaine, que le visage était teinté de ce vert que nous avons vu justement sur les documents précédents. Je ne sais pas si ça apparaît un peu sur ma projection. Hein. Bon, en tout cas, effectivement, voilà ce que l'on faisait au cours de ces fêtes, une petite figure de momie déposée dans un récipient en bois, faisant office de cercueil, donc là, une figurine d'une cinquantaine de centimètres, façonnée dans un moule au profil du dieu, façonnée avec du limon, du sable et de l'eau, et dans laquelle étaient enfouies des graines d'orge. Je vous parle de la figurine qui est à droite. Hein. La figure prend la forme d'une momie ityphalique, le sexe en érection a disparu, mais effectivement, il y avait toujours représenté ce sexe en érection, c'est une momie ityphalique, coiffée de la couronne blanche par ailleurs, même si on ne le voit pas véritablement là. Et une fois confectionné exactement comme je l'ai dit, limon, sable, eau et des graines d'orge enfouies dans la figurine en question, la figurine était arrosée pendant 9 jours et se produisait inévitablement la germination de ces graines d'orge qui étaient enfouies dans la statuette. Et alors quand justement se produisait la germination, tout d'un coup, cet Osiris était ou devenait l'Osiris végétant. Vous l'avez ici sur ce papyrus qui est extrêmement précieux parce que justement il présente cette image qui était fondamentale de l'Osiris végétant. C'est la conséquence de la germination de la figurine, de la petite momie que j'évoquais à l'instant. Hein. Alors cet Osiris végétant, donc on voyait les petites germinations, était solennellement transporté dans une barque munie de 365 torches vers l'île évoquant le tertre initial, comprenait cette île qui sort du Noun. Le Noun, c'est l'océan primordial, sorte de chaos si vous voulez, et l'île en question, qui est véritablement une île bien sûr, est l'île où se trouvait le tombeau supposé du dieu Osiris, hein, même si les Égyptiens sous l'Antiquité très vite ont démultiplié ces îles, prétendant que c'était le véritable tombeau du dieu. Mais qu'importe, il faut l'imaginer, dès que cet Osiris germait, Osiris végétant, on le transportait dans une barque, muni de 365 torches, vers ce tertre initial, cette île qui est le tombeau supposé du dieu. Hein. La renaissance d'Osiris explique son caractère chthonien, comprenez, comme la végétation, il a la capacité de renaître. Donc ne vous méprenez pas sur la couleur verte d'Osiris. C'est ce que je veux dire. Hein, c'est chez nous, bien sûr, pour nous, si on voit une momie de couleur verte, on se dit c'est la couleur du cadavre. Non, pas pour les Égyptiens d'Antiquité. Et encore une fois, pensez à la confrontation, le vert et le rouge, justement. Quant à l'image desséchée qui avait été façonnée l'année précédente, car c'était tous les ans que l'on pratiquait cette fête de Koïak chez les Égyptiens sous l'Antiquité, elle était retirée du sépulcre, remplacée par celle du dieu verdissant, c'est-à-dire l'Osiris végétant que j'évoquais. Ainsi, le cycle se refermait, 365 jours après, le cycle se refermait, les forces vives de la nature étaient régénérées et un nouveau cycle pouvait commencer. D'ailleurs, les symboles sont parlants, les 9 jours d'humidité, puisque je vous disais, pendant 9 jours, on est censé arroser la figurine, la statuette. Les 9 jours d'humidité correspondent évidemment aux 9 mois de la gestation. Et ainsi de suite, tout un tas de symboles, si vous voulez. Alors, Osiris est vert, mais ce n'est pas le seul dieu dans une religion qu'on trouve vert. Alors, par exemple, dans le bouddhisme, Tara, qui peut prendre plusieurs formes, est souvent présentée à droite de couleur verte. Verte, elle ne possède que 2 yeux, même si à gauche, elle est toute dorée. Quand elle est verte, elle ne possède que 2 yeux, parce qu'elle peut avoir plusieurs formes et plusieurs yeux, plusieurs bras. Ça, c'est assez banal, ça, en fait. Là, vous avez une très belle image de Tara, donc déesse du bouddhisme. Alors, bien sûr, pas tout à fait, en fait. C'est une bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui a atteint l'éveil, la bodhi, mais qui refuse le nirvana, qui retrouve les hommes ici-bas, de façon à les diriger vers l'éveil ou l'illumination. Alors, que voit-on ici, à gauche? Prenons la figure qui est à gauche, puisqu'elle est beaucoup plus visible que la peinture qui est à droite. Quoique, à droite, vous avez vraiment une très belle image de la Tara verte tibétaine, qui trône parmi des feuilles, des fleurs débordantes de vitalité, mais on va commenter plutôt celle qui est à gauche, parce qu'on la voit très bien, assise dans la posture du bodhisattva, c'est-à-dire la jambe droite en avant. Sa couleur, le vert, symbolise l'activité éveillée de la compassion agissante. Je vous rappelle effectivement que le bodhisattva est compatissant vis-à-vis de l'humain. Elle agit pour le bien de ceux qui l'invoquent avec la rapidité du vent. Elle va agir avec la rapidité du vent. La jambe repliée à gauche, la jambe gauche en fait, qui, on le voit, est repliée. J'agrandis le détail. Voilà, cette jambe gauche signifie le renoncement aux attachements grossiers. Et la jambe droite, qui est à demi dépliée, montre qu'elle est prête à se lever pour aller secourir les êtres avec la rapidité du vent, pour ceux du moins qui l'invoquent. C'est ce que veut dire cette position. Cette posture indique aussi que Tara, en étant entièrement libérée des imperfections de la souffrance du samsara, je vous rappelle, le samsara, c'est le cycle des naissances, des morts, de la renaissance, et ainsi de suite, ça n'en finit pas, a néanmoins choisi d'y demeurer dans la souffrance du samsara. Elle accepte de renaître pour aider tous ceux qui souffrent. C'est aussi ce que dit cette posture. Elle possède une compassion inextinguible pour tous les êtres. Les ornements qu'elle porte témoignent de la perfection de chacun de ses actes, c'est-à-dire que si elle est parée de bijoux, si elle est accompagnée de fleurs, comme on le voit très bien là, ici, sur cette magnifique image d'une Tara verte, avec toutes les fleurs qui l'accompagnent, c'est pour évoquer la perfection de ses actes. La moindre chose qu'elle fait, finalement, est une vertu qui est traduite en iconographie par des fleurs ou une parure. Enfin, la sereine Tara verte se tient sous un petit Bouddha. Le Bouddha est en haut. Un Bouddha rouge, comme par hasard. Vous voyez, rouge. Donc toujours cette confrontation du rouge et du vert. Et au-dessus, une féroce déesse de l'amour, mais on la voit mal dans ce cas. Et ce qui est intéressant, c'est le petit Bouddha rouge au-dessus de la verte Tara. Donc voilà pour dire qu'il n'y a pas que Osiris, qui est vert de peau parmi les dieux des différentes religions, Et vous le savez, parce qu'on avait dû le voir la semaine dernière, le Christ aussi est vert. On avait dû voir de Gauguin la semaine dernière le Christ jaune. Mais le Christ vert de Gauguin, c'est extrêmement pertinent, très très pertinent. Il a raison de peindre le Christ jaune, mais il a raison aussi de peindre le Christ vert, parce que dans le christianisme, la croix du supplice du Christ peut être verte, le sacrifice du Rédempteur étant accompli pour le salut de l'humanité. Et là, il faudrait effectivement développer. C'est pas compliqué d'ailleurs, hein. Il faut se poser la question, mais c'est quoi ce bois de la croix? Ce bois de la croix. Hein, donc, alors, si effectivement on se réfère à des légendes qui sont notamment rapportées par Jacques de Voragine dans sa légende dorée au XIIIe siècle, si on se rapporte à ça, ce bois de la croix, c'est le bois de l'arbre de vie. L'arbre de vie n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est l'axis mundi, c'est l'arbre qui pousse au centre du jardin d'Éden, si vous voulez, hein. C'est l'arbre de vie, quoi. Et cet arbre de vie est mort au moment du péché originel. Et ce bois qui a été perdu est retrouvé, et ce bois fera le bois de la croix du Christ, qui reverdit, bien sûr, ce bois reverdit, au moment de la mort du Christ sur la croix, ce bois reverdit, car c'est l'arbre de vie, et donc c'est une image du salut pour l'humanité. Le salut, c'est l'espoir, le salut, hein, c'est l'espérance, le vert, c'est l'espérance, dans tous les cas, le vert, c'est l'espérance. Hein. Donc c'est aussi ça, pour cette raison, que le Christ peut être vert. Hein. Et on peut trouver des calvaires chrétiens représentés en vert, image de la mort et de la résurrection du Christ. Il faut associer les deux, là. Il ne faut pas les découper, les dissocier. Image de la mort et de la résurrection du Christ. Donc dans la mort a lieu effectivement cette renaissance ou cette résurrection. Dans Apocalypse, chapitre 4, versets 2 et 3, Jean a la vision suivante. Je lis: « Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un, celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. » Donc ce siège, qui est le siège de Dieu, hein, Jean a la vision bien sûr du vieillard aux cheveux blancs qui apparaît dans le ciel, dans les cieux, assis sur un trône. Tout autour de ce trône, vous avez un halo de lumière verte, hein, comme dit le texte, avec des reflets d'émeraude. Et c'est comme ça que vous comprendrez pourquoi l'émeraude est la pierre précieuse consacrée au pape. L'émeraude, c'est la pierre précieuse consacrée au pape, à cause de ce passage, justement. Pour Hildegarde de Bingen, vous la connaissez, c'est une bénédictine allemande qui a vécu au XIIe siècle, une mystique qui a beaucoup écrit, Viriditas, que l'on traduit par la verdure. Viriditas, pour Hildegarde de Bingen, venait lorsque ceux qui approchent le Christ, dit-elle, le vin vivant, elle précise, hein, le Christ, le vin vivant. Ceux qui approchent le Christ, le vin vivant, le boivent, puis deviennent verts et féconds à travers lui. Voilà ce que dit Hildegarde de Bingen. Attention, c'était une mystique, hein, Viriditas. Le vert est lié au pouvoir créatif et fertile du Saint-Esprit chrétien, bien sûr, mais remarquez aussi que la déesse que l'on a évoquée tout à l'heure, la déesse grecque Aphrodite, dont on disait qu'elle est verte et féconde, la déesse Aphrodite régit l'amour et la fécondité, c'est-à-dire qu'elle répand, comme le Saint-Esprit chrétien, elle répand ce vert, finalement, de l'amour et de la fécondité, hein, ou de l'espoir. Enfin, voilà. Donc on a cette couleur du vert qui est quand même très, très, très pertinente dans toutes les religions. Antique, c'est l'Égypte, ou vivante, c'est le bouddhisme, c'est le christianisme, et c'est encore, bien sûr, l'islam. Donc c'est la couleur de l'islam. C'est la couleur de l'islam, le vert, et c'est la couleur du paradis musulman. Car dans ce paradis musulman, le croyant vertueux, nous dit le Coran, est paré de bracelets d'or, vêtu d'habits verts, tissés en soie et en or. On est surpris, tissés en soie et en or. Mais le Coran et les hadiths du prophète, les paroles du prophète, qui sont celles rapportées par Al-Bukhari de Boukhara au 9e siècle, donc il y a toujours des contradictions entre les deux. Il y a beaucoup effectivement de choses qui ne coïncident pas, qui ne correspondent pas entre ce que dit le Coran d'un côté et ce que disent les hadiths de l'autre. À plusieurs titres, à propos de beaucoup de choses. À commencer par, je ne sais pas, le voile, par exemple, ou le porc, le cochon, ce que dit le Coran à propos du porc ou du cochon, mais c'est rien du tout, y a rien, quasiment rien. Pour le voile, c'est presque pareil, et les hadiths sont là pour, compléter, ou alors on pourrait dire aussi corriger. Enfin, la couleur verte, c'est celle du prophète et de ses compagnons. Donc vous avez ici effectivement l'ascension du prophète, monté sur Al-Burak, dans son auréole toute dorée. Donc là c'est un jaune qui est forcément très positif, évidemment, et vêtu de vert. Bon, et ça sera aussi la couleur de ses compagnons. C'est une occasion aussi de dire, cette ascension du prophète Muhammad a lieu précisément à l'endroit où les musulmans construiront par la suite la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire à Jérusalem, troisième haut lieu saint de l'islam, qui en ce moment, là, dans notre actualité, pose énormément de problèmes, puisque c'est la période du Ramadan et que nous sommes en pleine guerre, opposant d'un côté les Israéliens et de l'autre les Palestiniens. Donc ça pose beaucoup de problèmes, cette mosquée Al-Aqsa et cette fête du Ramadan pour les musulmans et pour les Palestiniens en particulier. Donc c'est une façon de rappeler, cette ascension se produit à l'emplacement de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Et les chroniques disent que le costume du prophète se composait d'une chemise de coton doublée d'une longue tunique en laine qu'on appelle à ce propos djoba, tel qu'on peut encore les voir ces djoba sur les bords du Nil. Et que bien entendu, cette chemise de coton doublée d'une longue tunique en laine était verte. Quoique, on va voir que d'autres couleurs sont proposées pour l'habit du prophète. Idéalement, les vêtements verts ne devraient être portés que par les descendants de Muhammad, les Chourafa. Et en fait, on se rend compte que non, c'est porté d'une façon très, très variée et que les supports du vert sont variés. Vêtements d'apparat, reliure du livre saint, souvent de couleur verte, étendard des armées islamiques. On le retrouve également, d'une façon plus simple, sur le drapeau vert et blanc des descendants du prophète, évidemment. Sa place en islam est si sacrée, nous parlons du vert, que les musulmans rigoristes refusent de la faire apparaître sur les tapis. Ils ne veulent pas fouler aux pieds ce qui est la couleur du prophète. Ça serait considéré comme une atteinte à la dignité de l'islam. Donc beaucoup de ces tapis de prière ne comportent pas la couleur verte, contrairement à ce que l'on pourrait penser finalement. On pourrait penser qu'au contraire, c'est la couleur qui domine sur le tapis de prière. Et c'est également, vous le savez, la couleur du dôme et de l'intérieur de la tombe du prophète, ce qui nous conduit au deuxième plus haut lieu saint de l'islam. Le deuxième plus haut lieu saint de l'islam, c'est bien sûr la maison du prophète à Médine, qui est de la mosquée du prophète, mais c'est la maison du prophète à Médine, deuxième haut lieu saint de l'islam, le premier étant bien sûr la Mecque. Deuxième, c'est celui-ci, troisième, c'est la mosquée Al-Aqsa. Alors la mosquée du prophète est donc la deuxième mosquée la plus importante de l'islam. Elle jouxte l'emplacement de la maison du prophète. Mahomet, qui a également contribué à sa construction, d'après la tradition, attention, ça n'est pas vérifié par les historiens, y est enterré avec les califes, deux des quatre califes bien dirigés, Abou Bakr et Omar, sont enterrés avec le prophète. Inutile de dire, bien sûr, que Ali, qui est aussi un des quatre, enfin c'est le dernier des quatre califes bien dirigés, n'est pas enterré ici. À l'est de la mosquée se trouve le cimetière Jannat al-Baqi, c'est-à-dire un site historique et architectural renfermant les tombes des successeurs de Mahomet. Omeyyade, première grande dynastie califale de l'islam. Abbaside, deuxième grande dynastie califale de l'islam. Mamelouk ont tous rénové la mosquée plusieurs fois au cours des siècles, ainsi que les Ottomans, parce que n'oubliez pas effectivement que l'empire des Ottomans, jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc était considérable et comprenait justement tout ce Proche-Orient. Enfin, les Ottomans et les Mamelouks, les Abbassides, les Omeyyades avant eux, ont apporté de considérables modifications à la maison du prophète à Médine. Et aujourd'hui, c'est au royaume saoudien, depuis 1932, que revient bien sûr le soin de garder ce haut lieu de l'islam. Alors bien sûr, qu'est-ce que l'on voit et qu'est-ce que j'ai détaché en premier ici? C'est le dôme vert. Le dôme vert recouvre l'angle sud-est de la mosquée. C'est un dôme qui a été construit en 1279, donc du temps des Mamelouks en fait. Et il marque l'emplacement non pas de la maison du prophète, mais de la maison de l'épouse du prophète, de l'épouse de Mahomet, Aïcha. Aïcha vivait précisément, selon la tradition, bien sûr ce n'est pas vérifié par des archéologues ou des historiens, à l'emplacement de ce dôme vert. Et depuis, il a été reconstruit plusieurs fois, bien sûr. D'ailleurs, il n'a été peint en vert qu'au XIXe siècle, ce dôme. Symbole familier pour les musulmans à travers le monde, ce dôme, qui est emblématique de l'islam, a inspiré la couleur du drapeau national du royaume d'Arabie Saoudite, couleur verte, bien sûr. Et alors, puisque vous avez ces autres détails, ajoutons que jouxtant le dôme vert se dresse l'un des quatre minarets qui entourent directement la partie la plus ancienne de la mosquée, ici, que vous retrouvez là. Attention toutefois, il en existe d'autres. Il y a sept minarets en tout et pour tout qui se dressent ici. Et c'est une occasion de rappeler que le minaret est une adaptation des tours lumineuses servant autrefois à indiquer le chemin des pèlerins entre les lieux saints. Et ça existait sans doute à l'époque préislamique dans la péninsule arabique. Enfin, une tour qui sert aujourd'hui au Mouezzin à lancer ses cinq appels quotidiens à la prière, Azan, le Mouezzin fait cela effectivement cinq fois par jour. La mosquée est aussi entourée d'une vaste place couverte de marbre. Alors cette place a été complètement refaite à l'époque actuelle, si vous voulez, très contemporaine. Pourquoi? Parce que la mosquée est censée accueillir à peu près, lorsqu'il y a des fêtes dans l'islam qui concernent directement la maison du prophète, elle est censée accueillir plus d'un demi-million de fidèles. Donc il a fallu aménager une place gigantesque que vous découvrez un petit peu ici, au niveau de la mosquée en question. Donc voilà à peu près pour cette mosquée qu'on appelle, je vous l'ai mis ici, Al-Masjid Al-Haram, la mosquée sacrée, alors de la Mecque, excusez-moi, j'ai mis la Mecque, donc en tout cas, effectivement, c'est pour évoquer le premier haut lieu saint de l'islam, Al-Masjid Al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, et d'ailleurs on va s'y rendre aussitôt. Voilà. D'ailleurs il y a un symbole que l'on connaît bien, que l'on évoque souvent, c'est la Kaaba, qui est revêtue d'un velours, qui est un velours noir, qui recouvre entièrement la Kaaba. Donc ça nous situe bien sûr à la Mecque maintenant, d'un épisode de la vie du prophète sur lequel je ne m'arrête pas. Outre le vert, les couleurs les plus approuvées, les plus appréciées dans l'islam sont le blanc et le noir. Le blanc, parce que le prophète a dit, alors a dit, c'est tiré des paroles du prophète, les hadis notamment. Bon, alors le prophète a dit, Dieu aime les vêtements blancs et il a créé le paradis blanc. Et pourtant, c'est bien le vert qui est la couleur du paradis. On le disait tout à l'heure. Hein. Mais voilà, donc il y a un hadith qui dit « Dieu aime les vêtements blancs et il a créé le paradis blanc ». Et le noir, parce que Mahomet portait le jour de la conquête de la Mecque, une djoba noire et un turban de même couleur. Donc ne vous étonnez pas si plutôt que le vert, le prophète, comme on va le voir dans un instant, est habillé de noir et de blanc. On doit aux Abbassides d'avoir donné au noir une signification de deuil, en concurrence directe avec le blanc, qui domine chez les musulmans les plus pieux. Chez les musulmans les plus pieux, c'est encore le blanc qui est la valeur du deuil, hein, ou qui donne la valeur au deuil. Hein. Et la valeur donnée aux couleurs est complètement différente en Iran, c'est-à-dire que dans la tradition chiite, qui est un héritage de la culture persane, et la culture persane, c'est la culture de la Perse des Parthes, de la Perse des Achéménides, ou alors héritage des Zoroastriens, de la religion donc des anciens Perses, mais qui est toujours vivante aujourd'hui. Enfin, dans la tradition chiite en Perse, la valeur donnée aux couleurs est différente. Le jaune et le noir y sont maudits, alors qu'on vient de dire que le noir était apprécié par le prophète. Le noir est funeste parce qu'il représente la couleur du diable. C'est chez les chiites, chez les iraniens, le jaune est la couleur de la mort, alors qu'on a nuancé ce point en démarrant tout à l'heure par le safran. Hein. Bon. En revanche, dans la tradition sunnite, le jaune est accepté, toléré, voire apprécié, et notamment pour embellir une personne qui peut, et une femme notamment, les femmes musulmanes aiment porter le jaune pour peu qu'elles soient sunnites, hein. Bon. En Andalousie, les rouges dominent dans la civilisation arabo-islamique à son apogée du moins, hein, 10e-12e siècle, et c'est pourquoi Henri Pérez, qui était un grand spécialiste du monde arabo-islamique et andalou en particulier, il est mort en 1983, Henri Pérez rappelle la particularité des poètes hispano-musulmans qui préfèrent la rose rouge alors que l'Orient ne prisait que le narcisse jaune. Ajoutant Henri Pérez, pour les vêtements, nous constatons la même prédilection, tandis que l'Orient ne conçoit une belle femme que parée de jaune, l'Occident musulman ne la voit que parée de vêtements rouges. Et donc ça peut varier, hein, que vous soyez chez les chiites en Iran, que vous soyez chez les sunnites, mais chez les sunnites, que vous soyez en Orient ou en Occident, la valeur des couleurs varie considérablement. Hein. Alors, revenons au noir et au blanc. Là, vous avez justement une miniature qui est tout à fait édifiante à ce propos. Hein. On y voit Muhammad, qui est à gauche, qui désigne Ali comme son successeur direct, c'est-à-dire non pas comme le quatrième des califes bien dirigés, mais comme le premier. Alors ça, c'est ce que prétendent les chiites. Bien sûr que les sunnites sont contre cette tradition et s'élèvent fermement contre cette tradition, mais voilà, on raconte chez les chiites que près de l'étang de Koum, Muhammad aurait désigné directement Ali comme son successeur. De là, donc, la scission, le schisme entre les chiites d'un côté, les sunnites de l'autre. Passons. Ce qui m'intéresse ici, outre le fait que Ali porte l'épée à deux pointes du prophète, bifide, pourrait-on dire. Hein. Donc cette épée lui a été donnée par le prophète, nous dit la tradition. Est-ce que vous la voyez L'extrémité de l'épée que tient Ali dans sa main gauche, donc avec les deux branches. Pour marquer justement cet événement, il le choisit comme successeur. Ce qui est beaucoup plus intéressant, pour nous en tout cas, dans le chapitre sur les couleurs, c'est que là, vous voyez, vous découvrez un Muhammad qui est habillé de blanc et de noir. De blanc et de noir. Ça montre bien que ces deux couleurs sont très importantes dans l'islam. La couleur noire peut prendre la valeur de bravoure politique, de résistance à l'occupant ou de diplomatie, pour des raisons diverses que je ne développe pas. Et le blanc, couleur aimée et portée par le prophète, est aussi la couleur du linceul, l'isard. Et c'est pour ça que le blanc peut être la couleur du deuil chez certains musulmans. Couleur de deuil, couleur de mort, souvent d'ailleurs par antiphrase, j'insiste par antiphrase. Dans l'islam, on utilise le terme abiyad. Abiyad, vous l'avez en italique, à côté de blanc. À propos du noir, akal ou asawad, et du blanc, c'est abiyad. Alors par antiphrase, on utilise ce terme abiyad qu'on peut traduire par blanc ou blancheur pour désigner le charbon, pour désigner la suie, ou encore comme à Tlemcen, c'est dans l'ouest algérien, pour désigner un cosmétique noir à base de noix de galle employée par les femmes, on dira abiyad plutôt que le noir. Et dans la Perse antique, pour évoquer justement un héritage, le blanc était la couleur des prêtres zoroastriens. Et ici, Muhammad est habillé de blanc. Alors ça, c'est à propos du noir et du blanc dans l'islam. À propos du rouge et du bleu, maintenant, que voit-on sur cette miniature ? L'archange Gabriel et Muhammad, soit, ils sont à Médine, justement, bon. Passons sur ces détails. Ce qui est très très intéressant, c'est non pas tant la couleur que porte Muhammad que l'on voit à droite, évidemment avec son auréole magnifique, toute dorée, son voile qui lui cache le visage, méfiez-vous, dans ces miniatures anciennes parfois, et surtout chez les chiites, en Iran, on n'a aucun scrupule à représenter les traits physionomiques de Muhammad, du prophète, donc qui n'est pas forcément voilé comme on le voit ici. Mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr l'ange. L'ange, lui, est habillé de rouge et de bleu. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel, je rappelle, c'est un messager, c'est celui qui a déposé dans le cœur de Muhammad, alors qu'il était retiré dans cette grotte du mont Hira, autour de, on ne sait pas, de 610, on va dire, de notre ère, il a déposé dans son cœur les premiers versets du Coran. Dit la tradition, bien sûr, c'est la tradition qui dit ça. Bon, enfin, le rouge. Le rouge est également prisé par le prophète. Et El-Bara, qui a vécu au 7e siècle de notre ère, donc est un contemporain du prophète, aurait dit: j'ai vu le prophète revêtu d'une tunique rouge plus belle que toutes celles que j'ai jamais vues. Et c'est Al-Bukhara de Bukhara qui rapporte ça dans un de ses hadiths. En tout cas, le rouge est apprécié. Donc il aurait vu ce El-Bara, le prophète revêtu d'une tunique rouge. Le rouge symbolise la vie. Et comme je citais l'héritage zoroastrien, chez les zoroastriens, le rouge symbolise la guerre. La couleur rouge ou le bigarré représentait la corporation des guerriers, tandis que le bleu foncé était réservé aux éleveurs agriculteurs, mais pas dans la mystique. Dans la mystique, le bleu azrak, le bleu, Le bleu, surtout lorsqu'il tire vers le noir. C'est assez curieux, on croirait retrouver ce que dit Kandinsky à propos du bleu foncé qui tire vers le noir. Bon, donc est très mystique. Le bleu profond, c'est un bleu qui est très mystique. Donc dans la mystique de l'islam, le bleu azrak, quand il tire vers le noir, représente les profondeurs insondables de l'univers. Qui dit ça? C'est un des auteurs les plus fameux du Moyen-Âge, c'est Ibn Arabi, ce grand philosophe arabo-andalou, qui devra quitter d'ailleurs l'Andalousie à cause de la pression catholique sur l'Espagne. Et il mourra à Damas en 1240. Attention, il est plus qu'un philosophe pour les musulmans. Nous, on le voit comme un philosophe, mais c'est aussi un grand théologien, etc. C'est Ibn Arabi qui dit ça. Hein. Le bleu, quand il tire vers le noir, représente les profondeurs insondables de l'univers. Donc c'est un bleu mystique dans ce cas. Et justement, puisqu'on parle du bleu, un petit mot sur l'indigo. Alors l'indigo se dit Nili. Alors là, il n'y a pas vraiment de bleu sur ma miniature, excepté le fond quand même. Hein. Le fond, alors le fond, c'est plutôt azur, hein, le fond là ici. Hein. Enfin bon, qu'importe, ce n'est qu'un prétexte. Et puis l'image est intéressante, quoi qu'il en soit, puisque on a Moïse et Mahomet en pleine conversation sur ce fond bleu avec l'archange Gabriel, hein, comme si vous voulez la suite de l'histoire. Donc monté sur Al-Bourak, à l'emplacement de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Il connaît donc une ascension, il monte aux cieux, et aux cieux, il rencontre les anges, dont l'archange Gabriel, et il rencontre Moïse. On distingue bien Moïse, qui est à gauche, et le prophète à droite, et l'archange, bien sûr, au centre, au milieu. Bon, enfin, là je vous parle donc de cette couleur, indigo, alors que c'est plutôt l'azur qui est représenté sur la miniature, hein, en fond. Bon, passons. Si dans certaines régions du Nord, la couleur indigo peut symboliser la solitude, il est dans les régions du Sahel, de la Mauritanie, au désert libyen, en passant par les grandes étendues désertiques du sud algérien, du Mali, du Niger, l'un des symboles de prestige les plus recherchés, sans quoi vous ne comprendriez pas la longue tunique Touareg. Elle est indigo, teinte en indigo plutôt sombre, comme le montre cette photo, mais vous en trouverez d'innombrables à ce propos. Une couleur noble, cet indigo, qui vient d'Afrique, qui coûte cher par ailleurs. Et puisque je citais la Mauritanie, les Mauritaniennes suivent de véritables cures d'indigo qui les rendent bleu nuit. Là, je n'ai pas de photo à vous présenter, elles doivent se trouver cependant. Ces Mauritaniennes recouvertes d'indigo qui les rendent bleu nuit, car disent-elles, ces Mauritaniennes, outre le fait qu'ils protègent contre le froid, disent-elles, l'indigo, ni là, ni li, apporte nourriture et douceur à la peau. Ça, c'est de la rosière qui explique tout ça, parce qu'il l'a vu, de la rosière, dans ses notes sur l'artisanat mauritanien, de la rosière apporte cet épisode-là, à propos des mauritaniennes, justement. Et bien sûr que d'autres bleus sont également en usage dans l'islam. Alors le bleu moghol, c'est un bleu indo-musulman. Le bleu moghol, que l'on retrouve dans certains tapis indien et turc, est lié au pouvoir impérial, au même titre que la pourpre, d'ailleurs, qu'on va bientôt présenter en cours. Hein. Le bleu turquoise, maintenant, comme ça on aura effectivement des variations de bleu, le bleu profond qui est le bleu mystique, le bleu indigo, le bleu moghol, le bleu turquoise maintenant. Le bleu turquoise, c'est plutôt une couleur de défense magique, mais attention, un homme aux yeux bleus est redouté par les musulmans. Un homme aux yeux bleus fait peur aux musulmans. Hein. Et comme j'évoquais azur, je vais vous laisser sur cette image, hein, qui est tout à fait évocatrice. Azur et Asma, vous connaissez sans doute ce merveilleux film animé de Michel Oslo, qui connaît très bien la valeur symbolique des couleurs, qui joue pleinement sur cette valeur symbolique, notamment ce film animé. Azur, c'est bien sûr le ciel donc bleu, et c'est le premier personnage que l'on voit monter sur ce lion, tandis que Asmar, ça désigne le brun, ce qui est la couleur brune, mais qui a été traduite ici par plutôt une couleur, une très très belle couleur rouge. Hein. Et là, vous avez dans ce film animé une explosion de couleurs. Mais bienvenue, parce que Oslo a le sens effectivement de la valeur symbolique de ces couleurs.